OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, au chapitre 9, les versets 13 à 21. Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 21. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre et je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elle qu'il faisait du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, j'ai intitulé cette partie-là des Écritures, tout simplement, « La sixième trompette annonce le deuxième malheur ». On avait vu le premier malheur, alors, et là, il annonce le deuxième malheur, et ça serait une guerre. Une guerre de 200 millions de démons. 2 myriades de myriades, on a plusieurs versions qui ont traduit 200 millions. Alors, 200 millions de démons qui tuent le tiers de l'humanité. Alors, ça va être la deuxième malheur. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, la guerre des démons qui va être déclarée, versets 13 à 15, la guerre des démons qui va être démontrée, versets 16 à 19, et la guerre des démons qui va être dépréciée, versets 20 à 21. Dépréciée, pourquoi? Parce que même après les avoir envoyé tout ça, ils comprendront pas, ils se repentiront pas, comme on a vu dans 20 et 21. Alors, c'est vraiment le... Alors, on se souvient que les quatre premières trompettes formaient un premier groupe. Alors, quatre trompettes, un groupe. Les trois dernières, c'est un autre groupe. Et on a vu les deux premières du deuxième groupe. Ils ont été rendus à la sixième. Et on va voir que la septième va arriver beaucoup, parce que là, il va y avoir un interlude à partir du chapitre 10 et le chapitre 11, ça va être comme un interlude. On va voir la septième trompette beaucoup plus loin. Alors ça, c'est une technique qui est souvent utilisée dans les Écritures, et c'est pas la première fois. Quand on est arrivé au sixième sceau, il y a eu une interlude. Quand on est arrivé à la sixième trompette, il y a une interlude. Et quand on va arriver... Alors, on va voir que c'est une technique qui est utilisée de façon constante dans les Écritures. Alors, les quatre premières trompettes formaient un premier groupe. C'était des jugements divins, mais qui étaient sur tout ce qui est à l'extérieur de l'homme. La nature. On parlait de nature tantôt. Donc, la terre, comme telle, la mer, les fleuves et les lacs, et le système solaire et les étoiles. On avait vu que Dieu va intervenir, va agir sur tout ça en punition au péché des hommes, mais c'est des choses qui sont extérieures à l'homme lui-même. Et là, ce qu'on est en train de voir, on est en train d'étudier les dernières trompettes, les trois dernières, et ça forme un deuxième groupe. Et là, ce sont des jugements divins qui vont atteindre les hommes dans leur corps, ainsi que dans leur âme. Alors, on voit qu'aujourd'hui, quand on dit dans les âmes, c'est que si le Seigneur envoie des démons qui vont avoir la permission de Dieu de tuer des hommes. Si tu tues un homme qui est régénéré, est-ce que ça a un effet sur son âme? Il s'en va en enfer. C'est sûr que ça a un effet sur son âme. Parce que là, il était déjà mort spirituellement, mais là, il s'en va mourir éternellement. La mort éternelle. La mort physique, ça c'est une mort. La mort spirituelle, c'est les hommes, tous les hommes sont pécheurs, sont dans la mort spirituelle. Il y a la mort éternelle. Si quelqu'un n'est pas régénéré, il n'a pas reçu la grâce de Dieu, meurt dans cet état-là, il s'en va dans l'enfer. Donc, si Dieu permet qu'il y a un tiers des hommes qui meurent, donc c'est un tiers des hommes qui vont aller en enfer. C'est un jugement sévère. Mais quand on regarde la sévérité du jugement, est-ce que, me semble que ça devrait avoir pour effet que les hommes devraient commencer à se poser des questions. Devraient commencer à examiner leur relation avec Dieu du tout. Ça dit qu'ils s'endurcissent à la place. Alors, on avait vu le premier grand malheur, c'est Satan et sa horde de démons qui reçoivent de Dieu la permission ou la commission de tourmenter les incroyants et les persécuteurs impies de façon très intense, tant physiquement que psychologiquement. Le premier malheur, c'est à ça. Dieu envoyait des démons qui travaillaient sur les hommes d'une manière telle qu'ils vont désirer mourir, mais ils ne le feront pas. Ni par le suicide, ni par aucun autre moyen. Dieu ne permettra pas qu'ils le fassent. Ils vont juste souffrir des conséquences de leur péché. Alors, les démons, dans le premier malheur, ils n'avaient pas reçu la permission de tuer et ils n'avaient pas reçu la permission non plus de faire du mal aux élus. Alors, l'intensité des douleurs que Dieu va permettre qu'ils connaissent va être si grande que les incroyants vont désirer mourir et que la mort va fuir loin d'eux. Quand vous y pensez, là, si vous souffrez au point où que la seule chose, idée que vous avez dans la tête, c'est que je veux mourir. Puis c'est constant, 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 constant. Tu souffres beaucoup. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu souffres beaucoup. Alors Dieu va permettre ça pour le premier malheur. Et là, il parle du deuxième malheur. C'est sûr que quand on parle de chevaux, on parle de 200 millions, puis on parle de chevaux, dépendamment du système d'interprétation, moi je pense que c'est symbolique. Que c'est pas des véritables chevaux, parce que si tu regardes par la description du cheval, on voit qu'il n'y a aucun cheval qui correspond sur la Terre à des descriptions comme ça. Donc, à quelque part, on pense que c'est 200 millions de démons qui vont agir sur les hommes d'une manière telle qu'ils vont mourir de toutes sortes d'affaires. Ça peut être de la drogue, ça peut être des guerres, ça peut être toutes sortes de choses, mais Dieu va permettre que le tiers de l'humanité meure à cause que les démons vont travailler dans l'humanité. Un tiers des démons et après, les hommes, le verset 20 et 21 est quasiment décourageant. Hein. C'est un verset qui vient nous parler de la corruption très profonde du cœur humain. Tellement profond que malgré les jugements d'une sévérité comme ils ont reçu autant sur la nature que sur même l'univers, les étoiles, la planète, tout ça, et là, Dieu va permettre que l'action, ça aille sur leur corps et sur leurs âmes, et ils ne se repentiront point. À quelque part, si ça ne nous suffit pas pour examiner un peu la doctrine de la corruption du cœur humain, qu'est-ce que ça nous prend? Alors, la deuxième grand malheur, on pense que c'est vraiment une armée, 200 millions de démons, ayant la mission de tuer le tiers des hommes de la terre. On sait que les démons, au cours de l'histoire, dans tous les siècles, ont influencé les hommes dans le mal, ont attiré les hommes dans le mal, et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand les démons agissent sur la terre, par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, on le voit à l'heure actuelle, on va voir tantôt quelques statistiques sur, par exemple, une drogue qu'on en parlait tantôt, le fentanyl. Quand j'ai lu ça, le nombre d'Américains qui sont morts de ça, puis le nombre de Canadiens qui sont morts de ça au cours des dernières années, c'est fou! Une drogue qui ne coûte rien, qui t'amène automatiquement vers la mort. Et ça court les rues partout. Tu peux acheter ça comme de la gomme ballon. Ça s'en vient grave, l'affaire. Alors, on sait que même si les démons, au cours de l'histoire, ont toujours agi dans le but d'emmener les hommes vers la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais on sait que plus on va s'approcher de la fin, plus tout ça va s'intensifier. Je pense qu'on est en train de parler, il y en a beaucoup qui croient que la description du chapitre 9, versets 13 à 21, parle de la période qui précède immédiatement le retour du Seigneur. Beaucoup de personnes croient ça. Ça voudrait dire que s'ils ont raison, on est dans la période qui précède immédiatement le retour du Seigneur. Ça veut dire que, je ne sais pas comment ça va prendre d'années, mais techniquement, ça voudrait dire que je pourrais vivre assez vieux pour être de la génération qui va monter au ciel avec le Seigneur. Quand on pense à ça, là, on est sur la terre, on est des pécheurs, puis un jour, quand il va revenir, il va nous emmener avec lui. À quelque part, il y a quelque chose de rassurant, quelque chose d'encourageant aussi. Il y a une génération de chrétiens, je ne sais pas si je vais être dedans, je ne sais pas si vous allez être dedans, mais si vous êtes... la seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite d'être dedans. On est vivant, on a notre corps sur la terre, puis tout d'un coup, à l'appel du Seigneur, on monte, notre corps est transformé d'un corps physique mortel, avec plein de maladies puis de problèmes, puis que là, on rentre avec un nouveau corps, et c'est extraordinaire, cette doctrine-là. Alors, la guerre des démons qui est déclarée, c'est dans le verset 13 à 15. On les relit. « Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Aussitôt furent déliés les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année afin de tuer la troisième partie des hommes. Quand on pense à ça, ici, il y a une doctrine de la souveraineté de Dieu qui est très importante. Parce qu'autrement dit, ces choses-là vont arriver au moment où Dieu a déterminé que ça arriverait. L'heure, le jour, ça va être telle journée, telle heure, le mois, tout ça est tout décidé de par décret de Dieu. Et l'année, nous, on sait-tu quelle année? On ne sait pas, mais ça peut être pas mal proche aussi. Quand ça va arriver, imaginez-vous, le Seigneur, dans sa souveraineté de toute éternité, a déterminé que c'était pour arriver le jour, l'heure, le mois et l'année. C'est assez précis à notre goût. C'est là qu'on voit que le Seigneur est au contrôle. On a de la souffrance, on vit toutes ces choses-là, tout ensemble. On a toute la souffrance, pas au même niveau, pas au même endroit, pas à la même intensité, mais on souffre toutes. Et le Seigneur dit que le jour où il va revenir, tout ça est déterminé d'avance. Si vous lisez le verset, moi, si vous êtes comme moi, quand vous lisez l'Apocalypse, on lit le verset, et quand il nous dit « Le sixième ange sonna de la trompette, j'entendis une voix qui sort des quatre cornes. » On dit « C'est quoi ça? Une voix qui sort des cornes. » Puis non, pas, ça ne sort pas de n'importe quelle corne non plus, c'est l'autel d'or qui est devant Dieu. Là, ça nous oblige à retourner dans l'Ancien Testament, dans Exode, quand on lit dans le livre de l'Exode, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, l'autel d'or, je ne sais pas si vous, dans votre tête, là, disons que on ne fait pas de révision au matin, juste dans votre tête comme ça, là, c'est situé où là, dans le tabernacle? Est-ce que ça vous allume ou si ça ne vous allume pas? Si ça ne nous allume pas, c'est parce que quelque part, notre compréhension du livre de l'Exode est boiteuse un peu. Parce que là, il dit quelque chose d'important. La voix va sortir des quatre cornes. Il y a du symbolisme là-dedans, mais il ne dit pas de n'importe quel autel. Dans tout le tabernacle, là, quand on étudie le tabernacle, il y a deux autels. Il y a un autel qui servait à quoi? aux holocaustes, l'hôtel des holocaustes. L'hôtel qui était, tu rentrais dans le premier voile, puis après le premier voile, il y avait l'hôtel des holocaustes. C'était là-dessus que les Juifs, ils prenaient, ils égorgeaient leurs victimes, prenaient le sang, mettaient le sang sur les cornes, et il y avait... Et après ça, il y avait la cuve d'airain. Il y avait la cuve d'airain qui était immédiatement avant d'entrer dans le tabernacle lui-même. Là, tu étais dans le parvis. L'idée, il y avait deux choses dans le parvis. Il y avait l'hôtel d'airain, l'hôtel de Locos. Et tout de suite après l'hôtel de Locos, il y avait la cuve. La cuve était... Le symbolisme est très... est saisissant. Quand on commence à comprendre le symbolisme, c'est, autrement dit, quand tu as rentré dans le parvis, tu es dans les choses divines. La première chose qui était accomplie, c'était la victime qui se devait d'être tuée, d'être complètement brûlée, parce que si vous vous souvenez, l'animal se devait d'être placé sur la grille qui était à mi-chemin. Si vous, vous, je ne sais pas si vous avez... on l'a à la page 3. Ça, c'est l'hôtel des holocaustes, avec une grille d'airain qui était au milieu, puis il y avait quatre cornes. Alors ça, c'est important de faire la distinction. Après ça, il y avait, si vous regardez dans la page 2, on voit la porte, et pour rentrer dans le parvis, on avait l'hôtel des holocaustes, puis tout de suite après, on avait la cuve d'airain, qui avait pour but de se laver. Quel est le symbolisme de ça? C'est que tu rentres, tu ne peux pas rentrer dans le tabernacle avant que tu aies tué la victime et que tu te sois identifié avec la victime, qui est Jésus-Christ. Et après, la cuve, c'était la sanctification. Autrement dit, on ne rentre pas dans le tabernacle sans être sanctifié. Et tu te sanctifies. Et après, là, tu rentres dans la partie interne. Et dans la partie interne, il y avait deux parties. Le Saint, puis le Saint des Saints. Alors, dans le Saint, il y avait trois choses. On le voit, je l'ai-tu là-dedans? Je l'ai-tu, si vous voulez pas. Non, je l'ai pas. En tout cas, il y avait un chandelier, qui était Jésus-Christ. L'autre bord, tu avais la table des pains de proposition. Puis, en face du grand voile qui séparait le Saint du Saint des Saints, tu avais l'autel d'or. Et qu'est-ce que ça représentait, l'autel d'or? La vie d'intercession de Jésus-Christ lui-même et les prières des saints. Et la voix, il faut remarquer d'où elle vient, puis pourquoi elle sort à cet endroit-là, juste avant de rentrer dans le Saint des Saints. C'est extrêmement... Plus on étudie ça, plus on trouve ça... C'est fantastique, hein, les Écritures. Hein, ça peut arriver que tu aies passé 50 fois sur ce passage-là, puis si tu n'as pas médité sur la signification de ce que c'est l'autel d'or, tu passes par-dessus une grande vérité. Alors, pour bien comprendre le verset 13, les cornes de l'autel d'or, c'est-à-dire la voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or, nous devons nous rappeler certains enseignements concernant le tabernacle dans le livre de l'Exode et son symbolisme qui concerne la personne de Jésus-Christ. Si on regarde dans Exode 30, versets 1 à 10, on va voir là où le Seigneur a demandé de construire cet autel-là, il y avait une raison. Et quand on la lit, on commence à faire les liens. Et ça dit, ici c'est Dieu qui parle à Moïse, « Tu feras aussi un autel pour y faire fumer le parfum » et tu le feras de bois de sittim. Qu'est-ce que c'était le bois de sittim? Quand on regarde, l'autel d'or était composé de deux choses. Il était composé de bois incorruptible, l'humanité de Jésus-Christ, l'or, la divinité de Jésus-Christ, et Jésus, et c'est lui qui présente, lui, il intercède, il fait l'office d'intercession pour nous au ciel. On le sait, ça. Mais aussi les prières que nous on fait, là. Dieu écoute et Dieu répond. Quand il dit « la voix sort des quatre cornes », qui pouvait rentrer dans le Saint des Saints? Le souverain sacrificateur. Et il pouvait rentrer combien de fois dans l'année? Une fois. Et il fallait qu'il rentre et il fallait qu'il y ait du sang sur les cornes. Alors, il dit, tu le feras de bois de sittim. Alors, vraiment, pour voir le symbolisme de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ dans l'autel d'or. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré, mais sa hauteur sera de deux coudées. Donc, autrement dit, c'est un petit autel carré, mais est à deux fois plus haut que large. Et il dit, mais sa hauteur sera de deux coudées. L'autel aura des cornes qui en sortiront. C'est là qu'on est en train de... Dieu avait préparé ça pour le tabernacle, et ensuite, ça s'est perpétué dans le temple, premier temple, deuxième temple, deuxième phase. Alors, je suis sûr que ça a été ici le mercredi, ça va vous dire quelque chose. Il dit, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, les cornes, et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Quel est le symbolisme, vous pensez, quand on parle d'un couronnement d'or? La couronne, ça représente quoi? La royauté! Et tu lui feras aussi deux anneaux d'or au-dessous de son couronnement, ses deux côtés. Tu le mettras aux deux côtés. Ce sera pour recevoir les barres qui serviront à la portée. Tu feras les barres de bois de sittim et tu les couvriras d'or. Et tu mettras l'autel au devant du voile. De quel voile? Le voile qui séparait la partie sainte de la partie très sainte, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le tabernacle où je me trouverai avec toi. Ça, c'est une étude, la prochaine étude qu'on fait ensemble, ça va être d'étudier le tabernacle. C'est tellement intéressant. Et Aaron, il fera fumer un parfum d'aromate chaque matin. Quand il préparera les lampes, il fera fumer le parfum. Et quand Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, il le fera aussi fumer. C'est un parfum qu'on brûlera continuellement devant l'Éternel. Il y avait la mission de maintenir ce parfum-là qui brûlait devant l'Éternel. Ça symbolisait la prière de Jésus qui intercède continuellement pour nous. Et ça symbolisait nos prières qui se font en lui aussi. Il dit, et quand Aaron allumera les lampes entre les deux soirs, il le fera fumer. C'est un parfum qu'on brûlera continuellement devant l'Éternel dans vos générations. Vous n'offrirez sur cet autel aucun parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, ni vous ne ferez aucune libation. Mais Aaron fera expiation sur les cornes de cet autel une fois l'an avec le sang du sacrifice expiatoire pour le péché, et il y fera expiation une fois l'an dans vos générations. Ce sera une chose très sainte consacrée à l'Éternel. Alors, j'ai mis le dessin parce que je me dis, si on ne met pas ce dessin-là, là, moi, je vais vous dire une affaire. Les premières fois que j'ai lu la description du tabernacle, ça part d'Exode 25, ça va jusqu'à Exode 40. Vous essayerez de comprendre ça si vous n'avez pas des dessins. Si vous y arrivez, là, vous êtes meilleur que moi. Parce que... Mais quand vous avez les dessins, là, tout ça prend forme et le symbolisme devient très clair. Tout dans les Écritures, c'est pas simple, c'est simple dans le fond. Tout dans les Écritures parle de Jésus le Christ. Si on lit Exode 25 à 40, puis qu'on voit juste des planches, puis de l'or, puis on comprend rien, on parle de Christ, on parle tout le temps de Christ de façon symbolique. Alors, on voyait l'autel des holocaustes avec le feu. Le feu représentait quoi? Pourquoi on prenait une bête et on la mettait sur la grille d'airain? Fallait qu'elle soit brûlée complètement. Ça représentait quoi, ça? Ça représentait le jugement que le Père fait sur son Fils et qu'il le juge brûlé. Quand tu parles de brûler, fallait que ça soit brûlé là, complètement. Alors, on le voit ici, là, on voit au centre, la personne rentrait, il y avait l'autel. Et il y avait la cuve d'airain, mais il ne rentrait pas dans le tabernacle tout de suite. Alors, l'autel des holocaustes, on le voit, la grille d'airain avec ses quatre cornes, mais ce n'est pas de cet autel-là que ça parle ici dans l'Apocalypse qu'on est en train de dire. Le Seigneur, il dit que la voix, ça dit, et j'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, on parle de celle-là ici en bas, là, à page 3. Là. Donc, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums, ça représente le ministère d'intercession de Jésus-Christ et nos prières qui montent au ciel. Et c'est à partir de cela que la voix, là, c'est comme si Jésus disait, voici, vous avez compris, je vous ai expliqué autant comme autant, mon ministère de salut, et vous n'avez pas compris, maintenant, pour votre punition, il dit, la voix, c'est comme si j'ai la voix, c'est comme celle de Jésus qui sort, puis il dit aux quatre anges qui sont sur l'Euphrate, délie les quatre anges qui sont sur l'Euphrate, et c'est là que les 200 millions de démons vont sortir pour attaquer. Bien important de saisir ça, parce que si on ne saisit pas ça, ici, le sixième ange qui sonne de la trompette, qui venait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Puis là, ça dit, cette voix-là, elle dit, elle sort des quatre cornes. Est-ce qu'il y a des voix qui sortent des cornes d'un autel? Alors, ça ne peut pas être autre chose qu'un symbolisme de la voix qui parle du symbolisme de tout ça. C'est comme si Jésus disait, voici mon œuvre a été faite et vous n'en tenez pas compte. Maintenant, vous ne voulez pas en tenir compte? OK. C'est comme la voix de Jésus dit, délie les quatre anges qui sont sur... et permet qu'il y ait un tiers des hommes qui soient jugés par la mort à cause de ça. Alors, la première chose qui vient à l'esprit est de comparer l'autel d'or de l'encens avec l'autel des reins de l'Holocauste. On vient de le faire un peu rapidement. Ça serait beaucoup plus intéressant si on avait eu le temps de faire toute l'étude du tabernacle. Si on fait ça, on comprendrait beaucoup mieux le sens de ce qu'il est en train de dire ici. Alors, l'autel des reins de l'Holocauste nous fait penser à Golgotha, où tout pécheur peut trouver le pardon et être réconcilié avec Dieu. À Golgotha, ce lieu abreuvé de sang, notre bien-aimé Seigneur a acquis par sa mort une rédemption éternelle. Personne ne peut mesurer la valeur et la signification de cette offrande faite une fois pour toutes. Nos cœurs sont toujours à nouveau profondément touchés par la mort de notre Seigneur et remplis d'une grande reconnaissance et d'une sainte joie. Ce qui est intéressant aussi, il dit la différence entre les deux autels ne résidait pas seulement dans leur signification, mais aussi dans leur emplacement, l'autel d'or qui était devant Dieu. Et l'autel d'or, à cause elle était composée de deux choses, le bois d'acacia. C'est un bois, le bois d'acacia, c'est un bois rare, un bois incorruptible, qui représente la nature incorruptible de Jésus-Christ. Et l'or représente sa divinité. Si on lit le tabernacle et qu'on voit juste des petits meubles encore en couleur ou en or ou en airain, puis qu'on ne fait pas le lien avec Jésus-Christ, ça l'avait pour but d'amener le peuple de Dieu à la compréhension, du moins il la mettait physique, de manière à allumer un petit peu le peuple de Dieu, il leur fait comprendre que ça représentait Jésus-Christ. Donc, l'autel des reins se trouvait dehors dans le parvis, avant l'entrée. Tandis que l'autel d'or se trouvait à l'intérieur, dans le sanctuaire. Très important. Alors, tous ceux qui ont été rachetés par la grâce merveilleuse de Dieu ont reçu aussi la dignité de sacrificateur. Leur vocation est de servir dans le sanctuaire. Leur place est à l'autel d'or pour apporter maintenant à leur Dieu, comme de vrais adorateurs, l'hommage et la louange dans la puissance du Saint-Esprit. Tant l'autel de l'Holocauste que l'autel de l'encens sont qualifiés de Dieu de choses très saintes. Bien sûr, il parle de Jésus-Christ. Une fois là, au grand jour des propitiations, le sang du sacrifice pour le péché était mis sur les quatre cornes des deux autels, sur ordonnance de Dieu, unis dans nos pensées, ces deux autels. Alors, j'ai trouvé ça, j'ai mis la référence où j'ai trouvé ce commentaire-là, que je trouvais très intéressant. Alors, une fois par année, le souverain sacrificateur fait des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. L'autel d'or, qui se trouve devant le trône de Dieu, regroupe les deux fonctions de l'autel, offrant au Tout-Puissant à la fois les sacrifices et les parfums de dévotion liés aux prières des saints. Parce qu'on saisit, il dit qu'il y a deux fonctions. Donc, une fois l'an, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans la partie très sainte, mais il fallait qu'il rentre avec le sang de la victime pour aller les mettre sur les cornes. En tout cas. La voie est donc celle du Seigneur Jésus-Christ. Elle va commander aux quatre anges de punir ceux qui refusent de reconnaître que sans le sang de Jésus, le pardon est inaccessible aux hommes. Alors ça dit, disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors j'ai sorti un petit peu quelques informations sur la question du fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate, c'était la frontière qui séparait à cette époque-là l'Orient de l'Occident. Très important. Et la longueur totale du fleuve avait 2900 km. Alors, c'est un grand fleuve. La plus grande des villes situées sur l'Euphrate était Babylone. Voyez-vous encore tout le symbolisme de ça? Et c'était sur l'autre côté. Mais là, il est en train de parler que l'ange va ouvrir la frontière qu'il y a entre le côté oriental et le côté occidental. Alors, on peut constater un parallèle entre Apocalypse 9, verset 14, donc l'angle des trompettes ou des avertissements de Dieu, et Apocalypse 16, verset 12 à 16, ce serait le même événement sous deux angles différents. Quand on lit Apocalypse 16, vous allez voir qu'on fait le lien avec l'Euphrate, là. Apocalypse 16, on parle de les coupes de Dieu. Parce que là, il va venir un temps que les trompettes, ça va être terminé et que les coupes vont commencer. Alors, si vous remarquez, il y a un ordre. Il y a les décrets que Jésus brise les sceaux. Suite après, il y a les trompettes qui est les avertissements divins aux hommes. Et après que la septième trompette est ouverte, vous avez les coupes. Les coupes, c'est vraiment là où Dieu envoie ses jugements, mais encore plus en profondeur. Les coupes, ça dit les coupes de la colère. Les coupes de la colère de Dieu. Alors, quand le septième ange va sonner la septième trompette, on est rendu à la sixième. À la septième, il va y avoir un interlude. Et après ça, on va voir que la sévérité des jugements de Dieu va aller en s'intensifiant. Alors, quand on lit Apocalypse 16, on parle de la colère de Dieu. Ça dit, le sixième ange versa sa coupe. Voyez-vous, là, on n'est plus dans les avertissements, là. On est dans les déversements de colère. Versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Autrement dit, ça va venir de l'Orient. L'Orient, ben, il y a la Chine, il y a les Indes, il y a toutes ces, l'Asie. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne, qui veut dire montagne de la déroute. Alors, quand on prend Apocalypse 9, on parle de l'Euphrate, puis si on voit Apocalypse 16, on voit que les auteurs disent que c'est comme deux descriptions qui parlent de la même chose, mais sous un angle différent. C'est intéressant à noter ça. Donc, la sixième coupe, quand elle va arriver aux coupes, se déverse sur l'Euphrate lui-même, qui tarit afin de faciliter le passage entre l'Orient et l'Occident pour participer à la bataille d'Armageddon. Il faut donc que la barrière entre l'Orient et l'Occident tombe afin que les armées de toute la terre soient présentées à ce grand dénouement de l'histoire. Bataille d'Armageddon, là, c'est là où les hommes s'assemblent ensemble dans un blasphème de pouvoir penser d'affronter le Seigneur, et c'est là qu'il va juger. Et ça dit, et aussitôt, la voix, quand elle a eu commandé, aussitôt furent déliés les quatre anges qui étaient prêts. Pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Alors, dans ce verset-là, on voit un exemple de la souveraineté absolue du Seigneur. Les choses qui arrivent actuellement, les choses qui vont arriver plus tard, ce sont des choses qui sont décrétées de Dieu à l'heure près, à la minute près. Moi, ça me fait un bien terrible que de lire ces versets-là puis d'étudier ce passage-là. Parce que, qu'est-ce que ça nous amène comme consolation? Dieu est au contrôle. Il a le contrôle parfait. Des fois, on pense que c'est les hommes qui dirigent tous leurs petits événements puis leurs petites affaires qu'on lit, mais Dieu est au contrôle et il le fait parfaitement. Donc, la souveraineté de Dieu dans ces événements-là est très importante. Versets 16 à 19, la guerre des démons qui est démontrée. Autrement dit, on va regarder comment le Seigneur va permettre que il parlait le nombre des cavaliers de cette armée. Pourquoi on parle de cheval, puis là on dit que c'est des démons? On dit que c'est des démons tout simplement parce que ça ne correspond pas avec une description de chevaux qu'on voit sur la terre. Quand vous lisez ce qui est marqué là, vous ne voyez pas de chevaux qui font ça. Là. Alors, c'est fort probablement les démons qui vont agir sur les hommes par toutes sortes de moyens, par la drogue, par tous les moyens que les démons pour tuer les hommes. Ça peut être des morts instantanées comme ça peut être des morts causées par les suites du péché. Mais autrement dit, quand le Seigneur va permettre ça, il va y avoir le tiers de l'humanité qui va mourir. Si on parle de tiers actuellement, là, on parlerait de pas loin de 3 milliards. Pas loin de 3 milliards d'hommes. C'est du monde, ça, mes amis. Alors, les jugements vont être sévères, comme on dit. Alors, il s'est dit, le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions. Deux myriades de myriades, c'est 200 millions. Car j'en entendis le nombre. Or, je vis aussi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Voyez-vous, c'est là que... Avez-vous déjà vu ça, un cheval avec une tête de lion?
Non.
On peut facilement déduire qu'on ne parle pas de véritables chevaux, parce qu'il y en a dans certains commentaires qui sont partis en peur. Ils voient des tinques là-dedans, puis ils voient toutes sortes d'affaires, puis des noms d'armes modernes. Éloignez-vous de ça. C'est vraiment... des têtes de lion et leur bouche, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. La troisième partie des hommes, autrement dit un tiers, fut tuée par ces trois choses. Le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Vous avez vu ça, un cheval, que son pouvoir est dans sa queue? Là, on parle de symbolisme. Si on n'embarque pas dans le symbolisme, ça ne tient pas debout, ces histoires-là. Car leur pouvoir était dans leur bouche, dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celle-ci, ils faisaient du mal. Oui. Quand vous regardez tout ça, là, on parle de cheval, on parle de serpent, on parle de tête de lion, on voit bien que, dans le fond, c'est du symbolisme que le Seigneur... Un cheval, c'est un animal de guerre. S'il y a un animal qui n'a pas peur, dans les guerres, les anciennes guerres qu'il y a eues, les chevaux, pourquoi on les utilisait? Parce que c'est des animaux qui n'ont pas de peur. Quand le commandant criait « En avant, peu importe ce qu'il y avait en avant, les chevaux, ça court! » Il veut utiliser l'image de la fougue des chevaux. Il veut utiliser les lions. Quelle caractéristique que ça a, un lion! On l'appelle le roi des animaux parce que ça prend sa victime et ça l'égorge et ça la vainc. Et après ça, il parle des serpents. Un serpent, qu'est-ce que ça fait? Ça pique et ça tue. Alors, il prend des images d'animal pour montrer que ces démons-là vont avoir un effet destructeur et mortel terrible. Quand il dit le nombre de 200 millions. Alors, les commentateurs conservateurs s'entendent pour dire sur la signification du nombre 2 myriades. Ne s'entendent pas, c'est-à-dire sur la signification du nombre 2 myriades de myriades. Alors, dans certaines versions, c'est 200 millions. D'autres croient que c'est véritablement un chiffre symbolique pour parler d'un nombre extrêmement important, tout simplement. Un nombre extrêmement important. Alors, une force extraordinaire et d'une puissance de destruction. Alors, on parle des animaux, on parle de trois types d'animaux. On parle du cheval, on parle ici de sa fougue dans la guerre, on parle aussi du lion. Pas pour rien qu'on dit du lion qui est le roi des animaux, parce que c'est un animal, quand il chasse, il est très efficace. Pourquoi il utilise l'image du lion pour parler des démons qui vont attaquer les hommes? C'est parce qu'ils vont être, eux autres aussi, des chasseurs très efficaces. Et ensuite, le serpent, bien entendu, si on sait qu'un serpent, ça mord, et ça, soit que ça rend les hommes, ça les immobilise, ou si t'es pas soigné à temps, bien, tu vas aller par mourir. Alors, il utilise ces trois choses-là. Et après, il parle d'animaux. Les trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre. Là, ici, j'ai tiré de... Paulin Bédard a fait une étude sur l'Apocalypse, versets 13 à 21, et je trouve que il fait une observation sur ce passage-là que je trouve intéressante. Je vais vous la lire. Elle dit « Les guerriers portent des cuirasses de la couleur du feu, d'hyacinthe et de soufre, rouge, bleu et jaune. Cela correspond au feu, à la fumée et au soufre qui sortent de la bouche des chevaux, ce qui exprime l'harmonie complète entre les cavaliers et leurs montures. Ils sont unis dans leur désir de tuer et de détruire. Les chevaux sont équipés pour la destruction. Leur tête est comme la tête des lions, forte et meurtrière. Leur queue est comme des serpents qui ont une tête pouvant infliger des blessures mortelles. Ils peuvent donc tuer avec la gueule et avec la queue où se trouve concentré leur horrible pouvoir. Il n'est pas possible d'y échapper. Cette description fait penser à des machines de guerre illustrant les terreurs représentées dans notre vision. » Alors, on va juste faire... on va lire le passage d'Apocalypse 14. Parler du soufre. La propriété du soufre, si vous prenez du soufre jaune, là, tu sais, en poudre, puis vous jetez ça sur du feu, là, ça fait pouf! Alors, pourquoi il parle de feu et de soufre en même temps? C'est parce que ça va... Le soufre a la propriété de prendre la propriété du feu et de l'intensifier, autrement dit. Verset 14, Apocalypse 14, versets 8 à 11, et on va terminer là-dessus. « Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. » Voyez-vous, l'idée, là, le feu, quand tu es dans le feu et tu jettes du soufre là-dessus, ça fait en sorte que le feu devient encore plus puissant, plus fort. « Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment montera aux siècles et des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Alors, on en parle beaucoup ici de ce temps-là. Il y a toutes sortes de théories qui courent. Qu'est-ce que c'est l'image de la bête? On ne rentre pas là-dedans matin, mais on va y arriver un jour. Et pour aujourd'hui, on va arrêter là. Et on terminera la leçon la semaine prochaine, qui va terminer le chapitre 9. Alors, on va arrêter là aujourd'hui.